Fidèles auditeurs et auditrices du studio Kalangou, bonsoir et bienvenue au forum quotidien du studio Kalangou. Vous nous écoutez à travers un réseau de 52 radios partenaires dans les 8 régions du pays. Selon la stratégie nationale de prévention et de réponse de violences basée sur le genre au Niger, de 2017 à 2021, les violences sexuelles sont toutes paroles, faits ou actes de nature sexiste ou sexuelle. Viol, entre parenthèses, non désiré par la victime et exercé par un individu, un groupe ou une organisation. Les violences sexuelles couvrent donc deux champs, à savoir d'une part le contact physique guidé par la recherche du plaisir sexuel et d'autre part des propos, des propositions ou des incitations à des actes non désirés. Au Niger, le viol est défini dans le code pénal en son article 283 comme tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. Ainsi, le cadre législatif nigérien comporte plusieurs dispositions qui répriment et punissent certaines formes de violence, notamment le viol. Aujourd'hui, nous discuterons de la prise en charge juridique des victimes de viol. Alors, quelles sont ces dispositions? Comment dénoncer juridiquement un cas de viol? Comment mettre les victimes dans leurs droits? Comment se passe la prise en charge juridique? Pour répondre à ces grands points et à bien d'autres au cours de ce forum, nous recevons aujourd'hui M. Alzoum Ibrahim de SOS Femmes et Enfants. Enfant victime de violences familiales et de M. Iliassou Amadou, juriste. Je suis Rafika Taher à la modération. On va commencer par vous, M. Alzouma. Ça sera un tour de table. Quelle analyse faites-vous de la situation juridique des victimes de viols aujourd'hui?
Merci, Rafika, de me donner cette opportunité de m'exprimer un peu sur un sujet brûlant. Donc, l'analyse du phénomène de viol au Niger, c'est un phénomène en tout cas qui est très présent dans nos sociétés, parce que nous, en tant que structure qui intervient dans le domaine, nous recevons beaucoup de ces cas donc qui viennent se plaindre d'avoir été victimes de viol. Maintenant, on associe toujours au phénomène de viol aussi certains actes que nous qualifions d'agression sexuelle, parce que dans la classification, nous avons fait une différence entre le viol proprement dit et puis les agressions sexuelles. Le viol étant donc un acte de pénétration forcée, donc parce que là on insiste sur l'élément pénétration. Tant qu'il n'y a pas de pénétration, donc on classe ça dans le cas des agressions sexuelles. Mais s'il y a pénétration, c'est en ce moment-là qu'on parle effectivement du viol. Mais cela peut s'apparenter un peu donc de la définition qui a été donnée par le code pénal. Parce que dans le code pénal, agression sexuelle, le viol est une agression sexuelle. Et toute agression sexuelle aussi, on peut définir aussi des situations dans lesquelles on peut être en face donc, de viol.
Monsieur Iliassou, quelle analyse faites-vous de la situation juridique des cas de viol au Niger?
Ok, merci beaucoup de m'avoir donné la parole pour me prononcer dans le cadre de ce sujet qui est très important, surtout dans le cadre du viol. Certes, au Niger, vraiment, le cas du viol a pris ampleur à un certain moment, et surtout dans le cadre juridique. Le cas du viol peut le qualifier viol comme un crime. Donc vraiment, dans le cadre dispositif national, il y a beaucoup des articles ou des textes qui parlent sur la répression en cas de viol. Comme vous venez de définir le viol dans le code pénal à son article 283, qui définit le viol, et en même temps aussi son article 284 qui réprime le viol. Donc vraiment, le cadre juridique aussi, il y a des dispositions qui encadrent dans ce cadre de viol.
Où et comment est-ce qu'on peut dénoncer un cas de viol?
Quelle que soit la victime ou bien les entourages de la victime, c'est-à-dire que les parents ou bien d'autres personnes qui sont concernées peuvent dénoncer au niveau du viol. Pour annoncer ou bien dénoncer le viol, il y a des services compétents pour acquérir le cas. C'est-à-dire qu'acquérir la survivante pour constituer ce dossier. Par exemple, on peut dénoncer le viol au niveau des organisations non gouvernementales qui interviennent dans le cadre. On peut dénoncer le viol aussi dans les sociétés, aux acteurs de société civile. On peut aussi dénoncer au niveau des services compétents, c'est-à-dire au niveau de la gendarmerie, la police ou bien la garde nationale.
À quel moment est-ce que vous, les juristes, vous intervenez?
Nous intervenons lorsqu'il y a une réquisition. Une réquisition à personne. C'est-à-dire que la réquisition, elle est faite par la police, la gendarmerie ou d'autres acteurs du service étatique. Donc, après la réquisition, la survivante est orientée ou bien référée au niveau de l'hôpital pour expertise médicale. Donc, c'est l'expertise médicale qui justifie même le cas de viol. Parce que sans l'expertise médicale, le juriste ne peut pas qualifier un cas de viol. C'est le seul résultat qui qualifie un cas de viol. Donc, à ce temps-là, que le juriste peut intervenir pour constituer le dossier de la survivante.
Monsieur Alzouma, est-ce que vous vous occupez des cas de viol au sein de votre organisation? Si oui, comment ça se passe?
Oui, SOS s'entendant une structure qui œuvre dans le domaine de la lutte contre les VBG sous toutes ses formes. Donc, et le viol étant un des aspects, en tout cas non le moindre, donc de ces 6 formes qui ont été inventoriées par les ONG, associations et le système des Nations Unies. Donc, nous recevons effectivement des cas de viol. Des cas de présomption de viol, parce que tant que, comme le juriste a eu à le dire, tant qu'il n'y a pas une expertise et qui a prouvé qu'il y a eu viol, on ne peut pas a priori parler de viol. Donc on parle de présomption de viol. Quand nous recevons la survivante, donc nous avons des spécialistes qui la prennent, qui l'écoutent, donc et en fonction des éléments qu'elle va détailler au niveau de cet entretien, si nous pensons que c'est un cas de présomption de viol, donc nous l'orientons au niveau des services donc pour les unités des enquêtes, c'est-à-dire la police, la gendarmerie et aussi maintenant la garde nationale, pour qu'elle puisse avoir une réquisition. Parce que tant qu'elle n'a pas cette réquisition à personne qui est délivrée par ses services compétents, donc aucun médecin ne peut la traiter. Voilà pourquoi il est toujours important de le faire et a priori. Une fois qu'elle a cette réquisition, donc ça donne la possibilité donc d'aller voir un expert assermenté de l'État, donc qui va essayer de voir si réellement par des examens médicaux et par d'autres stratégies qui sont à leur niveau, pour voir si effectivement il y a eu viol. Donc, et c'est seulement les résultats de cette expertise qui va permettre donc à l'officier donc d'État civil de dire qu'il est en présence d'un cas de viol. Et en ce moment-là, un dossier va être ouvert. Le procureur sera informé pour qu'une suite soit donnée à ce cas-là.
Justement, vous avez déjà entamé la prochaine question que j'allais vous poser, qui était de savoir comment est-ce qu'une plainte peut être recevable. Quels sont les constituants, les éléments qui doivent être dans le dossier pour que cette femme-là puisse être reçue convenablement?
Bon, dès que la personne pense qu'il y a un de ses droits qui a été violé, donc, sa plainte peut être recevable. Si elle pense qu'elle a été victime de viol, maintenant, c'est à elle de donner tous les éléments dont donc, l'officier d'état civil ou l'unité de l'enquête va demander. Et maintenant, cela sera étayé par une expertise médicale. Parce qu'on a eu aussi des cas de femmes ou des filles qui peuvent venir dire qu'elles ont été violées. Mais en réalité, si on regarde, si on fait l'expertise, on se trouve que ce n'est pas le cas. Donc voilà pourquoi cette expertise est nécessaire et c'est seulement donc cet agent de santé là à qui il sera demandé donc de donner son avis ou bien son expertise sur le cas. C'est seulement en ce moment là que nous pouvons affirmer qu'on est en présence d'un cas de viol et on va saisir. Et déjà le fait de prendre la réquisition au niveau de la police, la gendarmerie, la garde, déjà c'est comme si donc on est au niveau de déjà on est dans une étape de la justice, parce que c'est des bras de la justice. La police, on passe toujours par eux. Maintenant, c'est eux qui vont transmettre le dossier au niveau de la justice, au niveau du procureur, pour que des poursuites soient engagées contre l'auteur.
On a eu à rencontrer des femmes qui ont été victimes de viols, mais qui ont eu du mal à se faire servir dans les services de santé. Je vous propose d'écouter leur témoignage.
Cela m'est arrivé aussi. En ces temps, j'étais petite. Je ne connaissais ce qu'un homme. Lorsqu'on m'a violée, j'ai même perdu connaissance. Ce qui est grave encore, c'est un de mes cousins qui m'avait violée. Mes parents avaient honte de dénoncer. C'est une de mes sœurs qui a appris la nouvelle 3 jours après. Elle m'a amenée au centre de santé. Mais les agents de santé ne m'ont pas acceptée parce que l'acte s'est passé il y a plus de 3 jours. Mes parents et moi, nous étions tous choqués. Les parents n'ont pas dénoncé parce que ça va ternir mon image et je peux ne pas trouver quelqu'un qui va m'épouser. Car c'est une tâche qui ne se fasse pas. Effectivement, j'ai été victime de viol.
Lorsque j'avais 11 ans, on m'envoyait vendre des produits en ville. Un homme adulte m'a appelé, il m'a violé. De retour à la maison, je me suis mise à pleurer. Mes parents m'ont demandé, je leur ai expliqué ce qui s'était passé. Ma mère a investigué et l'acte était avéré. On m'a amenée au centre de santé par la suite. Les agents ont refusé de m'admettre au début, avant de céder finalement.
Tout d'abord, monsieur Iliasso, avec vous, pourquoi les parents refusent de dénoncer le viol?
Normalement, dans les principes, les parents ne devraient pas refuser d'annoncer le cas de viol. Et peut-être, je pense que c'est peut-être la méconnaissance des textes relatifs à ça que les parents n'ont pas pu dénoncer. Même si les parents refusent de dénoncer, il y a des autres acteurs aussi qui peuvent intervenir pour dénoncer le cas de viol.
Votre avis, monsieur Alzoma?
Oui, ça, c'est des situations qu'on rencontre le plus souvent. Pour des cas de viol, effectivement, nous, en tant qu'ONG, nous recevons ce genre de situation. Pourquoi? Parce que le viol est toujours perpétré, généralement, par quelqu'un qui est proche de la famille. Dans de bonnes mesures, c'est perpétré par quelqu'un qui connaît la victime et par quelqu'un qui est aussi proche de la famille. Et vous savez, dans nos sociétés, donc quand ça concerne la famille, on veut cacher, on veut masquer. On ne veut pas porter plainte parce qu'on dit que ça va détruire les relations sociales entre les familles. Et aussi, on le cache aussi des fois pour ne pas exposer la victime. Et comme une des intervenantes a dit, elle ne va pas trouver de mari. Oui, aujourd'hui, quelle est la fille qui va être victime de viol et que tout le monde sera au courant. Et quand il s'agit maintenant de trouver, on va dire, c'est la fille là qui a été violée, voilà, voilà. Donc c'est pour ça que les gens essaient de cacher deux fois. Mais ce que nous avons suivi aussi, ça m'a interpellé, parce que les agents de santé ont refusé de prendre. Là maintenant, il faut savoir pourquoi. Et moi je me dis déjà, le premier aspect sur lequel on peut penser peut-être pourquoi ils n'ont pas reçu, parce que les survivants ne devraient pas a priori aller au niveau du service de santé. Voilà pourquoi on dit qu'il faut toujours avoir une réquisition. Et tant qu'ils n'ont pas la réquisition, les agents de santé ne vont pas la toucher. Parce que sinon, ils peuvent être aussi poursuivis au niveau de la justice. Voilà pourquoi il faut une réquisition. Et c'est seulement cette réquisition-là qui délibère, qui dit nous avons besoin des informations par rapport à ce cas. Et voilà ce que c'est qu'on veut. Le fait de les refouler aussi, ce n'est pas la solution. Parce que peut-être ils ne connaissent pas, ils ont une méconnaissance de comment faire. Et ils se sont présentés au niveau de cette santé comme c'est un problème de santé. Mais les agents de santé là, auraient dû aussi donc, les informer et leur dire « Allez-y au niveau de la police, prendre un papier et revenez nous voir. » Il y a une aussi qui a dit que parce qu'il s'est passé plus de 3 jours.
Est-ce qu'il y a une période limitée pour déposer une plainte?
Ce n'est pas qu'il y a une période limitée parce que l'extinction d'un délit ou bien d'un crime de viol, je pense que, je parle sous le contrôle du juriste peut-être qui va infirmer ou confirmer, je pense que ça peut aller jusqu'à 30 ans. Je ne sais pas, il va le confirmer, mais quand même je sais que l'extinction prend du temps, c'est des années après. Maintenant, on ne veut pas que ça dépasse 3 jours parce que après 72 heures, il y a certaines traces qui peuvent disparaître. Dès qu'il y a eu l'acte de viol, dans les 72 heures, il faut qu'il vienne dénoncer parce que c'est seulement en ce moment-là, même si c'est des attouchements, même si c'est des... Donc, l'hymen n'a pas été entamé, mais on verra quand même qu'il y a eu pénétration ou il y a eu des lésions. Et ces lésions-là, si ce n'est pas fait dans les 72 heures, peuvent disparaître en fonction des personnes.
Monsieur Iliasso, comment mettre les victimes dans leurs droits? Surtout les populations en zone rurale, est-ce qu'elles sont informées qu'elles peuvent être dans leurs droits en cas de viol?
Oui, souvent, la population est informée dans le contexte, surtout dans le cadre du viol. Parce que, comme l'a bien défini le viol, parce qu'il y a des dispositions qui sont là pour encadrer le viol. Surtout, il y a des dispositions qui sont là pour porter plainte au niveau du viol. Parce que si vous prenez même le code pénal de son article, même 17, qui était clair par rapport à ça, parce que la concernée, la partie lésée, c'est-à-dire que la victime, elle peut porter plainte au niveau même communal jusqu'au niveau national. Au niveau communal, c'est-à-dire que l'article même qui a conféré un pouvoir au niveau du maire, qui est un officier aussi de la police judiciaire, il a la compétence pour acquérir la plainte. et aussi au niveau du préfet jusqu'au niveau national. Je pense qu'il y a des dispositions qui sont là, mais ça veut dire que de renforcer la sensibilisation dans le contexte pour que les victimes puissent avoir des informations relatives dans le cadre de dénonciation du viol ou aussi porter plainte dans le cadre du viol. Je pense qu'on devait renforcer la capacité des acteurs qui interviennent dans le cadre, en même temps aussi la population aussi, pour vraiment les faire comprendre qu'en cas de crime, parce que le viol est un crime, en cas de crime, voilà la procédure à suivre pour porter plainte. Par exemple, si c'est au niveau de la commune, il peut porter plainte, il veut déposer sa plainte au niveau de la mairie, auprès du maire, au bien son adjoint, rédiger une demande par rapport à l'acte qu'il était victime, et aussi continuer. Si c'est au niveau du départemental, aussi c'est la même chose. Aussi, si on prend dans le contexte même du décret 2019 dans le cadre de protection de l'enfant, même au niveau du villageois, même les chefs religieux, les chefs coutumiers aussi ont plein droit d'acquérir les plaintes pour protéger la population, y compris l'enfant aussi.
Mais la femme, par exemple, la petite fille qui est en zone rurale, elle ne sait pas qu'il y a toutes ces dispositions. Elle ne sait pas qu'elle peut aller sur Internet, faire des recherches et voir les dispositions. Qu'est-ce que ça lui propose? Qu'est-ce qu'elle a le droit de faire avec? Et cette fille-là, cette femme-là, qu'est-ce qu'elle peut faire?
Bon, je pense que ça, c'est d'abord en amont, il faut intensifier les sensibilisations. C'est important. Donc, intensifier les sensibilisations, expliquer à la population, voilà, en cas de crime, en cas de viol, voilà la procédure à suivre. Parce que toujours vous parlez des petits-enfants. Bon, le petit-enfant, c'est le consentement qui est important. Et le consentement de l'enfant n'est pas éclairé, c'est-à-dire que n'est pas valable. Mais ses parents peuvent venir dénoncer au niveau du chef coutumier, ou bien au niveau du chef religieux, ou bien au niveau de la mairie jusqu'au niveau national. C'est-à-dire que je viens de dire, c'est-à-dire que juste de rédiger une plainte, même si la personne ne peut pas rédiger une plainte, on peut porter plainte verbalement aussi pour venir dénoncer. C'est acceptable aussi.
Monsieur Alzouma, est-ce qu'il y a des démarches que vous faites pour informer justement la population de ces zones un peu reculées?
Oui, ça, nous, c'est un des aspects sur lesquels nous intervenons beaucoup, c'est la prévention. Et dans le cadre de ces préventions-là, donc nous faisons régulièrement des séances de sensibilisation ou des séances de dialogue communautaire donc au niveau le plus reculé pour que les gens puissent savoir les démarches à suivre. Quand on est en présence d'un cas, parce que des fois, vous voyez, la fille, même il y a beaucoup de filles ou de femmes qui sont dans le groupe, mais qui ont été victimes de viol, mais qui n'ont jamais dénoncé. Et cela amène un certain éveil de conscience. Ils vont dire, ah, donc ça veut dire que même si ça s'est passé il y a des mois ou des années, je peux encore porter plainte. Parce que le problème de viol, c'est que ça laisse un traumatisme au niveau psychologique. Et tant que cela n'a pas été élucidé, ça peut porter préjudice sur la vie future de la survivante. Moi, j'ai aussi en mémoire un cas que j'ai reçu. Et la fille a été violée depuis qu'elle était petite. Et elle n'a jamais fait le deuil de ce viol. Elle a gardé ça pour elle, elle n'a parlé à personne. La fille, jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de 25 ans, elle a des troubles psychologiques. Et c'est en ce moment-là que nous avons été saisis. Nous avons suivi cette fille. Et on a essayé de remonter depuis l'événement jusqu'au jour où elle était venue. Il faut que, ça veut dire qu'il y a des étapes qu'on ne peut pas brûler. Il faut les revivre, il faut les repasser pour qu'on puisse corriger. Parce que la personne peut se sentir, par exemple, à dire que c'est elle qui a été, qui est fautive, c'est elle qui a cherché à ce que, parce que c'est elle qui est allée peut-être là où son agresseur l'a agressée, ou bien, donc elle se culpabilise. Et tant que cela n'est pas élucidé, cette culpabilisation-là va faire en sorte que, faire un trou dans sa mémoire et qu'à chaque fois qu'elle se rappelle de ça, elle sera traumatisée, elle sera troublée. Donc voilà pourquoi nous insistons sur le fait qu'un cas de viol ne peut pas être aujourd'hui caché, ne peut pas être, parce que tout simplement c'est un parent qui l'a fait, ne peut pas être gardé sous silence. Il faut toujours en parler parce que nous, dans nos démarches, au-delà de la prévention, et il y a la prise en charge. Et la prise en charge, vous avez vu, ça commence par les unités d'enquête. Ça vient au niveau de la santé, mais au-delà aussi de la santé physique, il y a la santé mentale. Donc il faut que ce cas-là puisse être suivi pour qu'il puisse faire le deuil de la situation qu'il a vécue.
C'est seulement en ce moment-là, une fois que ces différentes étapes-là sont suivies, sont élucidées, que la personne peut vraiment rentrer dans ce droit et retrouver
essayer
aussi...
Essayer de porter plainte.
Voilà. Et essayer de porter plainte et puis surtout aussi retrouver son calme. Parce qu'un crime qui est puni, c'est toujours... ça décharge la victime. Quand on sait que quelque part, il y a quelqu'un qui a usé...
Donc, pour aller vers toutes ces démarches-là, quels sont les défis que ces personnes-là doivent d'abord relever?
Le plus grand défi, c'est la dénonciation au niveau de la famille et la dénonciation au niveau aussi de la survivante. Et pour des raisons que nous avons évoquées plus tôt, vous voyez pourquoi les parents, des fois, ne veulent pas dénoncer ou pourquoi la survivante elle-même ne veut pas dénoncer. Parce qu'elle se dit que c'est quelque chose qu'elle doit cacher. Elle ne doit pas faire savoir. Et des fois, même les survivantes les cachent à leur famille. Parce qu'elle se dit que si elle le dit, il y aura des représailles. On dirait que peut-être c'est elle qui a cherché. Et du côté de la famille aussi, des fois, une fois qu'ils sont au courant, ils peuvent aussi ne pas ébruiter cette affaire parce qu'ils se disent que c'est une honte pour nous de dire que notre fille a été victime de viol. Donc tout ça là, je pense que les parents doivent se départir de cela. Les survivantes doivent aussi se départir de cela. Quand il y a ce genre de situation, il faut en parler autour de soi. Il faut porter plainte, il faut dénoncer. Si aujourd'hui dans la société, il n'y a aucun cas de viol, et vous verrez que la loi sera timide par rapport à la répression de viol. Mais s'il y a des dénonciations, beaucoup de dénonciations de cas de viol, ça c'est ça qui va amener le législateur à dire « Ah, ça c'est un problème social et il va falloir trouver une solution. » Et c'est ça qui fait suivre l'évolution des droits. Vous allez voir, à des moments, le législateur revient pour encore corriger des insuffisances dans ce domaine. Et nous avons vu pour cela donc plusieurs situations où le code de procédure pénale a été révisé pour favoriser, pour prendre en compte certains aspects qui n'ont pas été pris en compte ou bien pour mettre beaucoup plus à l'aise les survivantes et les amener à aller dénoncer, à aller porter plainte pour que la justice puisse faire son travail.
Monsieur Iliassou, justement pour se faire justice, est-ce que ces victimes ont aussi des défis à relever?
Bien sûr, les victimes aussi ont des défis à relever et surtout aussi je pense que c'est la méconnaissance des textes. D'abord, il faut que les victimes ou la population puissent avoir un peu d'idées sur les textes, c'est-à-dire en cas de viol ou porter plainte, quoi à dire et quoi faire. C'est ça qui est important.
Est-ce qu'il y a des défis qu'elles doivent relever même au niveau de la police avant d'aller un peu plus loin?
Non, en tout cas au niveau de la police, je ne pense pas qu'il n'y a pas de défi. Tant que la victime, quelle que soit la partie légale, quelle que soit la personne, dès qu'il porte ses aveux au niveau de la police, elle sera vraiment écoutée par rapport à ça.
Quelles sont les sanctions encourues en cas de viol?
D'après la définition du viol, si vous prenez l'article 284 du Code pénal, qui dit que quiconque aurait commis le crime de viol sera puni d'emprisonnement de 15 ans à 20 ans. Aussi, il y a les circonstances aggravantes. Lorsque c'est une mineure de moins de 13 ans, donc les peines, c'est 15 ans à 30 ans de prison, plus une amende de 5 à 2 millions. Si vous prenez l'article 1383 du code civil aussi, c'est lorsque quiconque personne qui cause dommage à un autrui, il est obligé de le réparer. Lui, il ne parle pas du montant ou bien des peines. Lui, il parle de dommages et intérêts.
Monsieur Alzouma, au sein de votre organisation, est-ce que vous travaillez en collaboration avec les juristes? Et comment ça se fait?
Oui, effectivement. D'abord, à notre sein, nous avons des juristes parce qu'il faut qu'ils nous éclairent sur un certain nombre de faits. Et avant qu'on puisse engager une quelconque poursuite. Maintenant, au-delà de la structure SOS aussi, nous sommes en étroite collaboration, avec les unités d'enquête, donc de la police, de la gendarmerie, de la garde nationale, et aussi des tribunaux, parce que nous sommes nos interlocuteurs, nous référons des cas, mais aussi nous accompagnons des cas. Donc voilà pourquoi nous sommes obligés, et quand on regarde aussi les procédures opérationnelles qui ont été standardisées par le Niger, par l'État nigérien à travers le ministère en charge de la promotion de la femme, de la protection de l'enfant, donc la justice a un rôle très important dans cela. Et si je reviens par rapport à un aspect des défis qu'on rencontre, on ne peut pas parler aujourd'hui des défis qu'on rencontre au niveau des services de santé sans pour autant parler des défis aussi au niveau de la police. Il y a un des défis qui est commun à ces deux structures. Quand on part pour une expertise, aujourd'hui, c'est que c'est payant. Oui. Et la plupart des survivantes qui viennent n'ont même pas les moyens de transport, à plus forte raison, payer 30 000 francs pour assurer l'expertise. Et quand ils vont aller au niveau de la police, on va leur donner la réquisition, mais on va leur dire qu'il faut qu'on paye. S'ils n'ont pas les moyens, il faut chercher qui va payer les 30 000. Et généralement aussi, cela nous retombe dessus parce qu'ils reviennent chez nous en tant qu'ONG, parce que dans le passé, nous avons eu des financements dans ce sens, dans le cadre de l'accompagnement des survivantes au niveau des structures. Ils viennent et c'est nous, en tant qu'ONG, donc nous leur donnons les moyens donc, d'aller se faire expertiser, faire tous les examens, acheter les produits pharmaceutiques. Parce que nous, notre objectif, c'est quoi? C'est que dans les 72 heures, il faut qu'on ait les résultats. Il faut que ça ne dépasse pas 72 heures. Il faut qu'on voit si réellement cette personne a été victime de viol et que des poursuites doivent engager contre l'auteur. Donc là, c'est un vrai défi. Parce qu'initialement, l'État devrait assurer l'aspect prise en charge médicale. Mais dans les faits, je l'ai dit haut et fort, ce n'est pas le cas. Donc le code de procédure pénale fait obligation aux agents de santé donc de faire l'expertise médicale et de faire un rapport donc circonstancié de la situation qu'il aura à expertiser. Et je pense qu'il y a une compensation que le ministère de la Justice devrait faire au niveau, parce que les agents de santé qui font l'expertise ont droit à quelque chose. On droit à quelque chose, à une prime ou quelque chose comme ça, et cette prime-là devrait être versée par le ministère de la Justice au ministère de la Santé. Ça, c'est quelque chose qui les concerne là-bas, mais que le ministère de la Justice ne verse pas tout le temps. Et c'est ça qui fait que, des fois, on se trouve confronté à un problème. Les agents de santé, à des moments, on dit qu'ils ne vont plus prendre en charge les cas d'expertise parce qu'ils ne sont pas payés. Donc là, quand on a porté l'affaire au niveau de leur hiérarchie, ils ont pu régler ça parce que nous, ça ne nous concerne pas. Ça, c'est un problème qui les concerne. Mais toujours est-il dit qu'à un certain moment, il y avait cette gratuité de l'expertise, surtout pour les cas de viol au niveau de la maternité Gazobi. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, quand nous orientons une suivante au niveau de ces unités-là, il faut payer 30 000 francs avant que cette structure-là et cette personne-là ne soit expertisée. Il sauf peut-être deux fois des cas où le directeur général, qui est aussi un professeur à la matière dans le domaine de la gynécologie, autorise à ce que cela se fasse de manière gratuite pour certains cas. Ce n'est pas effectif. Maintenant, de plus en plus, au niveau du Kambano, donc dispensaire de la police nationale, ils font aussi des expertises. Et là, ça nous coûte moins cher parce qu'ils le font à 15 000 francs. Mais toujours est-il dit qu'il y a toujours quelque chose à payer et que les suivantes ne sont pas à mesure de fois de le faire. Il y en a qui prennent la réquisition et qui disparaissent de la nature parce qu'ils ont dit où est-ce qu'ils vont trouver l'argent pour aller le faire. Mais de plus en plus, quand la police leur remet, on leur demande, la police ou la gendarmerie ou la garde, on leur demande, est-ce que vous avez les moyens? S'ils disent qu'ils n'ont pas les moyens, ils nous les réfèrent au niveau, nous, des ONG, pour que nous puissions les aider, les accompagner à avoir les moyens de le faire. Et les examens médicaux, l'achat des produits pharmaceutiques. Donc jusque-là, nous arrivons à le faire sur fonds propres de l'ONG. Mais je profite de cette opportunité, cette occasion-là, pour lancer un cri de cœur aux endroits des partenaires pour qu'ils nous appuient vraiment dans ces deux aspects aujourd'hui qui sont les maillons où nous rencontrons beaucoup plus de problèmes, la prise en charge juridique et la prise en charge sanitaire. Pourquoi la prise en charge juridique? Parce que là aussi, nous rencontrons des difficultés. Il y a des dossiers qui vont au niveau des juridictions. Et vous savez qu'aujourd'hui, si l'autre partie, la partie défenderesse, prend un avocat, nous, la suivante ici, elle n'a pas les moyens même de se payer les frais de taxi. Elle se retrouve seule au niveau d'un procès. Et cela va de soi que des fois, c'est vraiment... ça les démotive. Et vous allez voir, elles vont facilement perdre un procès parce qu'elles n'ont pas eu de soutien juridique. Et là, nous faisons de notre mieux. Mais aussi, des fois, en fonction des moyens que nous avons, nous prenons des avocats pour nos suivantes, pour qu'ils puissent aussi être valablement représentés au niveau des procès. Nous en avons pris beaucoup pour beaucoup et nous avons aussi gagné beaucoup de procès parce que tout simplement, nous avons pris un avocat. Et l'avocat, vous savez que c'est des, excusez-moi du terme, c'est des commerçants. Donc, aujourd'hui, un avocat peut avoir. Même si par ailleurs on dit qu'il y a des commis d'office. Mais les commis d'office, c'est l'État qui les verse aussi une certaine indemnité. Mais à côté d'un commis d'office, si le commis d'office, là, le jour du procès, il a un autre cas qu'il va défendre et ce cas-là lui a versé des millions, donc vous voyez qu'il n'aura pas beaucoup de temps à consacrer à notre suivante. Voilà pourquoi nous aussi, nous avons des... Il y a des avocats aujourd'hui, Dieu merci, il y a beaucoup d'avocats qui acceptent donc de nous aider, d'appuyer nos suivantes contre tout simplement les frais de construction de dossier. Et ces avocats-là, il y en a beaucoup aujourd'hui et nous les remercions beaucoup. Et nous appelons aussi les partenaires parce que même les frais de dossier, ça varie, ça va de 150 000 à 200 000. Donc si aujourd'hui la suivante aussi n'a pas ses moyens, donc c'est à nous de le faire. Et si nous n'en avons pas, donc ça veut dire que tout simplement la suivante peut ne pas être en mesure de se défendre valablement au niveau des procès.
Monsieur Iliassou, avez-vous une réaction par rapport aux affirmations de Monsieur Alzouba?
Bien sûr.
Oui, on vous écoute.
Surtout ce qu'il vient de dire au niveau du prix en charge médicale. Certes, à mes connaissances, je pense que c'est ici à Gambé seulement au niveau de l'expertise médicale, ça cause des problèmes pour le 30 000, d'autre part, d'autres aussi, c'est à 15 000. Mais je pense que sur les régions, surtout d'autres régions du Niger, je ne pense pas que l'expertise médicale, ça cause des problèmes, surtout les frais médicaux. Et aujourd'hui, au niveau de juridiction, ça cause des problèmes. Pourquoi? Une personne qui est lésée, qui est victime d'une infraction, qui n'a même pas demandé de déplacement, qu'il est face à un procès. Et encore, la partie défendresse a dit que l'auteur de l'infraction prend un avocat contre lui. Et aussi, l'État laisse un œil regardant par rapport à cette situation. Je pense que vraiment l'État devait revoir pour que ces dispositions soient appliquées. Même si la partie défendresse, c'est-à-dire que l'auteur prend un avocat contre la victime, l'État devrait aussi soutenir la survivante pour que la justice soit faite par rapport à ça. Je pense que vraiment l'État devrait revoir les textes qui sont relatifs à ça aussi.
Quels sont les obstacles juridiquement parlant que peut rencontrer une victime de viol?
Au niveau des frais de justice, ça peut être un obstacle pour la victime et aussi au niveau de même l'application des textes aussi parfois. Ça cause aussi vraiment des problèmes parce que aujourd'hui on constate que les juridictions nigériennes même si ils sont assez des tribunaux, mais vraiment l'application de la texte et des textes, ça cause des problèmes aujourd'hui. Surtout au cas des viols. Si vous prenez le viol en tant que tel, il y a insuffisance des textes qui encadrent le cas du viol. Surtout le code pénal seulement qu'un peu des articles qui essaient de définir l'application du viol. Aussi d'autres exceptions par rapport à ça. Vraiment, je pense que c'est les textes qui devaient être revoir pour l'application du cas de viol. C'est ça qui cause vraiment le problème. Et surtout aussi, modification aussi. Parce que le fait que même si le texte est là, il faut aussi voir, parce que c'est la procédure. C'est la société essaie de d'augmenter ou bien l'augmentation de la population. Donc vraiment, il faut que le texte soit modifié par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des aspects qui devraient être impliqués dans le cadre d'application du cas de viol. Parce qu'on prend l'article, le code pénal, ces articles qui définissent et qui répriment le viol. Bon, je pense qu'il y a certains éléments qui devraient être figurés, qui devraient être impliqués pour que ça soit éclairé par rapport à ça aussi. Et ensuite aussi, il faut que le texte soit traduit en langue. Parce que comme vous venez de dire, une personne illettrée qui ne sait même pas qu'il y a un problème de lecture ou de comprendre le texte, si les textes ont été traduits par langue, peut-être ils auront plus de connaissances sur le texte qui devait être divulgué au niveau du national, au niveau du communal jusqu'au niveau national.
Là, ce sont vos recommandations.
Oui, oui.
Monsieur Alzouma, que faudra-t-il faire ou bien qui est-ce qu'il faut impliquer pour que ces victimes puissent enfin avoir réparation juridique?
Bon, vous savez, comme M. Elias l'a effleuré un peu le sujet, aujourd'hui, vous savez que la justice a un coût au Niger. Ça, c'est un aspect. Et aussi, la justice aussi, il y a aussi le temps à consacrer à la justice. Parce que tout simplement, bon, aujourd'hui encore ça va, parce que de plus en plus, il y a des juridictions qui se rapprochent beaucoup plus de la société, donc des communautés. Mais sinon, il y a toujours ces défis-là, eu égard au ratio juge et personne. Comme on le dit, par exemple, une personne, un médecin pour 10 000 habitants. Au Niger, je ne sais même pas le ratio. Un Nigérien, c'est combien de magistrats pourra...
Peut-être que M. Elias pourra répondre voilà, à la question.
Ça, oui. ça vraiment, je me demande. Maintenant, de l'autre côté, il a aussi parlé de certaines insuffisances. Et je crois que le code pénal nigérien a tout récemment été révisé à la demande de, surtout des acteurs, donc, que ce soit de la justice ou des acteurs de la société civile, des acteurs des ONG, parce que dans le cadre de notre travail, nous rencontrons des insuffisances et ces insuffisances ont été répertoriées et l'État a mis en place un comité qui avait travaillé pendant des mois et des mois pour réviser le code pénal et le code de procédure pénale. Il y a un travail qui a été abattu et un rapport a été déposé donc au niveau des autorités compétentes d'antan avant les événements du 26 juillet. Et je profite aussi de ce micro-là pour demander donc aux autorités du CNSP de valider et ce nouveau code pénal-là parce qu'il y a beaucoup d'améliorations qui ont été faites avec l'ancien code pénal. Et là, ça va nous permettre vraiment, ça nous facilite le travail parce que certains goulots d'étranglement ont été défaits et je pense qu'on ne peut pas parfaire les choses du jour au lendemain. Quand même, c'est du jour au lendemain qu'on essaie de voir où est-ce qu'on a, on n'a pas bien expliqué ou bien on a, parce que ça a même expliqué certains articles parce que selon l'adage, on dit que le code pénal est d'application stricte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui dire que le fait qu'il a été puni de ça pour ce crime-là, c'est la même chose avec celui-là. Donc, pourquoi ne pas transposer la sanction? Tant que la sanction n'est pas prévue par le code pénal, il n'y aura pas de sanction. Ou bien, tant que c'est flou, donc ça reste à l'appréciation du juge. Et le juge, des fois, peut l'interpréter d'une façon qui peut-être n'est pas la façon dont le législateur l'a voulu. Donc, voilà pourquoi... Et les membres de ce comité-là sont revenus par rapport à certains articles pour mieux les expliquer, donc pour que les magistrats puissent avoir facilement, en tout cas, à se référer à ces textes-là en cas de sanction. Et aussi, il y a certains articles qui manquent dans le code pénal et que, à travers ce comité-là, ces articles-là ont été ajoutés. Donc aujourd'hui, ça nous donne un code pénal, un avant-projet de code pénal, en tout cas, que je peux dire bon. Et nous appelons aussi, j'appelle donc à la conscience collective des Nigériens et au gouvernement actuel pour que cela, ce nouveau code pénal-là, puisse vraiment être validé et mis à la disposition de nos juridictions au Niger.
Monsieur Eliassou, combien de juges pour un cas de viol? Comme il l'a dit, on peut dire par exemple combien de médecins pour tel...
Bon, je ne peux pas répondre pour dire à combien de juges pour un cas de viol. Mm-hmm. Mais je pense que c'est un nombre insignifiant. Parce que si vous prenez le cas du Niger, on a 10 tribunaux seulement en grande instance. Et on a aussi 32 tribunaux d'instance. Donc même si vous prenez chaque tribunal d'instance, même sur 10 juges, vous allez que c'est le nombre insignifiant. Je ne pense pas que si vraiment au niveau de... Je ne connais pas exactement le nombre de magistrats qui se trouvent au Niger, mais je pense que le nombre est insignifiant. Regarde au Niger, les 10 tribunaux grandes instances, peut-être chaque tribunal grande instance ne dépasse pas 10 juges d'instruction ou bien 10 juges de magistrats. Peut-être hors classe de Niamey seulement qui a assez de magistrats. Je pense que le nombre est insignifiant. On a aussi des cours d'appel seulement et d'autres cours comme cours de cassation et cours d'assises.
Donc, quel est votre dernier mot par rapport à la prise en charge juridique des cas de viol?
Donc, mon dernier mot dans le cadre de prise en charge juridique. Et d'abord, je lance un appel à la population. C'est-à-dire qu'en cas de viol, quel que soit où se situe le lieu de l'infraction, la concerne ou la population devrait d'abord dénoncer. Parce que au niveau villageois jusqu'au niveau national, c'est la dénonciation qui est importante. Parce que le fait que la personne est victime de viol, elle est là à la maison et elle n'arrive pas à dénoncer, je ne pense pas que si la personne aura des remèdes par rapport à ça. Et deuxièmement aussi, je pense que l'application des textes. Aujourd'hui, même s'il y a des textes qui sont là pour réprimer en cas de viol, mais s'ils ne sont pas appliqués, je pense que ça aussi, c'est à revoir. Et ensuite aussi, modification de certains textes, comme Monsieur Azoum vient de dire, surtout l'avant-projet du code pénal qui vient d'être modifié. On souhaite que vraiment les autorités compétentes devraient prendre un décret pour application ou bien pour vulgarisation de ce texte du code pénal.
Et vous, monsieur Alzoum, à votre dernier mot sur le thème?
Mon dernier mot, je vais l'adresser au niveau d'abord à deux niveaux. Le premier niveau d'abord, c'est au niveau des survivantes, donc y compris les parents. C'est que nous, en tant qu'ONG, nous sommes là pour elles. Et nous sommes tenus aussi par le secret professionnel. Tout ce qui se passe entre nos quatre murs ne sort pas. Donc, dénoncer un cas de viol ne veut pas dire que ça va être étalé sur la place publique. On va entourer de toutes les garanties de sécurité le survivant et nous allons faire le travail de manière à ce que cette survivante-là puisse rentrer dans ce droit. Et ce qu'ils doivent aussi savoir, c'est que le premier niveau d'intervention d'abord, si ils n'ont pas de connaissances, ils n'ont qu'à s'adresser aux ONG. Les ONG, nous, on va les expliquer clairement les démarches à suivre, on va les accompagner aux besoins pour qu'ils puissent rentrer dans le droit. On est là pour ça. On accompagne l'État dans ce que l'État ne peut pas faire, parce qu'aujourd'hui, l'État ne peut pas être au four et au moulin, réprimer aussi, assurer l'aspect prévention et l'aspect prise en charge. Mais nous, en tant qu'ONG, nous venons en appui à l'État pour que les choses se passent de manière bonne, si on peut le dire. Maintenant, de l'autre côté aussi, l'État. L'État doit faire, en tout cas, le maximum pour que la sérénité règne dans l'esprit des gens. Parce qu'aujourd'hui, les chiffres sont parlants. Il y a beaucoup de cas de viol, des filles qui sont victimes de viol. Et cela n'est rien à côté des vrais cas. Parce qu'il y a beaucoup qui ne viennent pas dénoncer. Donc, et nous voulons que la justice soit beaucoup plus proche de la population. Que la justice puisse être une justice sociale, une justice humaine, à visage humain de la justice, parce que les survivantes ne doivent pas aujourd'hui avoir peur de la justice. Elles doivent savoir que la justice est là pour elles et elles doivent avec facilité aussi accéder donc aux différents services que la justice peut leur offrir pour qu'elles puissent vraiment voir leurs droits défendus. Parce que aujourd'hui, toutes les œuvres de développement, tous les projets de développement qu'on peut engager dans un pays, tant qu'il y a une frange de la population qui vit dans la hantise de se faire agresser, dans la hantise de se faire violer, moi je pense qu'il y a un problème. Ça veut dire que tout ce qu'on va faire, tous les milliards qu'on va injecter, on ne va pas avoir de bons résultats. Voilà pourquoi nous voulons à ce que la prise en charge des cas des survivantes de violences basées sur les gens d'une manière générale puisse être transversale à toutes les interventions, à tous les projets. C'est seulement en ce moment-là que nous pensons que les choses vont aller de mieux en mieux.
Voilà, nous sommes au terme de ce forum qui a parlé de la prise en charge juridique des victimes de viol. Rendez-vous demain à la même heure pour un autre thème du forum du studio Kalangou. Un coucou à Mustapha Ayouba qui a assuré la technique et c'était Rafika Taher à la présentation.